femme, nous qui n'avons pas
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Alors aujourd'hui, j'ai le volet 2 sur la prostitution avec l'amicale d'Uni, donc qui était déjà venue une première fois pour donner la libre parole à des personnes en situation de prostitution hors traite, qui en réalité représentent une minorité, une infime partie des personnes en situation de prostitution. Et là, ce volet 2 va être consacré à la prostitution des mineurs. Voilà. Donc, je crois que mes invités sont prêts. Ils vont se présenter et puis je vais leur laisser la parole et je vais intervenir le moins possible. Puisque, voilà, je vais leur laisser la parole. À vous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Donc, merci Nadia pour nous laisser la libre antenne pendant à nouveau une heure autour de donc, ce deuxième volet sur la prostitution des mineurs. On avait déjà fait le mois dernier un premier volet autour de la prostitution en général et au mois de mars viendra un volet sur la traite des êtres humains. Donc, aujourd'hui, on aborde la prostitution des mineurs avec des personnes qui sont concernées par la prostitution, qui ont commencé à se prostituer lorsqu'elles étaient mineures et qui se prostituent encore aujourd'hui, et des travailleurs sociaux, donc de l'Amicale d'Uni, hein, qui accompagnent des personnes qui se prostituent. Donc aujourd'hui, la prostitution des mineurs, donc en fait l'idée c'est qu'on va, on va avoir un échange ensemble, un petit dialogue autour de, selon nous, en fonction de notre expérience, quelles sont les raisons pour lesquelles un mineur ou une mineure, donc une personne qui a moins de 18 ans, peut être amenée à se prostituer. Quels sont les facteurs qui amènent quelqu'un à se prostituer, quels sont les impacts de la prostitution sur le devenir de cette personne, et puis voir si on a peut-être des messages à leur passer. Et là, on va surtout donner la parole aux personnes qui se sont prostituées lorsqu'elles étaient mineures. Et puis, on va essayer aussi de s'adresser pendant cette émission aux adultes qui se trouvent autour de ces jeunes. Si à un moment, on se rend compte qu'il y a une situation inquiétante, on a des doutes, des inquiétudes par rapport à la prostitution d'une personne mineure, qu'est-ce qu'on peut faire, ou même si on est sûr qu'une personne se prostitue autour de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit dire quelque chose? Quoi dire? Et puis, où trouver de l'aide aussi? Donc voilà, on a une heure pour aborder toutes ces choses-là. On va essayer de le faire autant que possible. Donc je vais juste présenter rapidement les personnes qui sont autour de cette table. Je vais commencer donc par Julie. Bonjour Julie.
Bonjour.
Donc Julie, vous avez commencé à vous prostituer lorsque vous aviez 15 ans.
Oui.
Et vous avez 15 ans de prostitution derrière vous. Et vous êtes donc accompagnée par l'Amicale d'Uni depuis à peu près 2 ans.
Oui.
Voilà. Bonjour. Merci d'être là.
Merci beaucoup.
Lionel.
Bonjour.
Donc Lionel, tu es travailleur social à l'Amicale d'Uni depuis
depuis 2 ans et demi. Je suis sur le pôle hébergement. Donc c'est une institution qui a la capacité d'accompagner des personnes en situation de prostitution et de les mettre à l'abri grâce aux hébergements que nous pouvons leur proposer. Je travaille sur ce pôle-là.
Donc toi, Lionel, tu travailles principalement avec des personnes majeures, mais bien souvent aussi des personnes qui ont commencé à se prostituer lorsqu'elles étaient mineures.
Voilà, au vu de la relation concrète, les échanges qu'on peut avoir, on se rend compte que parfois, pas toujours, leur activité prostitutionnelle a pu commencer à leur adolescence, voire plus tôt. Et donc voilà, je vais pouvoir parler de ces échanges-là, où il y a eu cette intériorité et ce passif dans l'accompagnement des personnes.
Ok, merci beaucoup. Ensuite, on va présenter Christine.
Bonjour.
Bonjour Christine. Donc Christine, vous avez commencé à vous prostituer lorsque vous étiez mineure, à une époque qui n'est pas si lointaine, où la majorité était fixée à 21 ans, donc vous aviez moins de 21 ans. Et là, vous étiez plus entraîneuse au tout début.
Entraîneuse dans les cabarets. Puis bon, disons que ça a commencé par les verres bouchons, et puis après, insidieusement, ça s'est terminé par des rendez-vous à la fin de nuit avec des clients. Voilà, donc c'est une forme de prostitution qui a débuté comme ça. Voilà.
Et après, là, vous avez à peu près 30 ans de prostitution derrière vous.
Bon, même un peu plus, peut-être. Peu plus. Légèrement plus. Ouais.
Merci beaucoup d'être là, de témoigner et de donner votre point de vue sur cette question. Et nous avons notre dernière invitée, Charlène.
Bonjour.
Bonjour Charlène. Charlène, tu travailles à l'Amicale du Nid depuis aussi à peu près 3 ans.
Oui, c'est ça.
Et tu es... assistante sociale.
Oui, j'ai la double casquette. Hein. Je suis assistante sociale et je suis éducatrice également.
Ouais.
Et j'interviens donc sur l'équipe qu'on appelle Aller Vers et qui a ses missions d'accompagner des adultes en situation de prostitution qu'on rencontre justement pas dans le cadre de l'accueil à l'association, mais qu'on rencontre beaucoup en maraude en fait, hein, en rue, sur les lieux de prostitution, mais aussi beaucoup aujourd'hui sur Internet, parce que la prostitution s'est beaucoup développée sur Internet et notamment pour les mineurs. Et depuis quelques mois, j'accompagne spécifiquement les mineurs en situation de prostitution.
Donc une quarantaine de jeunes, donc mineurs, sont accompagnés par l'Amicale du Nid à Marseille.
Actuellement, il y en a un petit peu moins, mais on a effectivement 40 mesures, à peu près 40 accompagnements à l'année. Actuellement, ils doivent être à peu près une vingtaine, je pense.
Sur, un petit peu pour fixer rapidement le cadre global, les chiffres, c'est un peu compliqué hein, de savoir combien de mineurs se prostituent en France actuellement.
Alors, les chiffres, en fait, selon l'ACPE, qui est une association qui agit contre la prostitution des mineurs, les chiffres qui sont donnés sont entre 5 000 et 10 000 mineurs en situation de prostitution sur l'année 2017. Néanmoins, ces chiffres me semblent un peu bas et je pense que, concernant la prostitution des mineurs, elle se passe essentiellement sur des lieux fermés où on a peu d'accès. Je pense que les chiffres ne sont pas forcément justes, mais c'est une estimation qui s'élève environ à 8 000 jeunes mineurs en situation de prostitution.
Donc là, on va, je pense, surtout aborder les retours d'expérience. Hein. On ne va pas trop partir sur les estimations un peu générales. Peut-être qu'on peut, dès maintenant, commencer à aborder la première question qui est, à votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent amener un jeune à se prostituer ? Et peut-être que là, on peut déjà partir de vos propres expériences, à Julie et à Christine.
Oui, moi personnellement, c'était plus la fuite de ma famille. Parce que, en tant que transsexuelle, j'avais peur de leur faire du mal. Ils ne me comprenaient pas, il n'y avait plus de dialogue. Et j'arrivais plus à m'épanouir et évoluer. Et j'ai débuté un apprentissage de coiffure et financièrement, j'avais que 300 euros pour vivre. Il fallait que je me loge, que je mange, que je survive, que je m'habille. Et j'ai pas eu l'intention de me prostituer, enfin ça n'a pas été une intention, ça a été en allant sur les réseaux sociaux, je cherchais à rencontrer une relation amoureuse et on s'est proposé à moi pour des relations tarifées. Et puis, je me suis laissée tenter par besoin. J'avais pas je ne voyais pas d'autres moyens à l'époque, puisque je n'étais pas informée des aides qu'il pouvait y avoir pour les jeunes dans ma situation, malheureusement. Et donc, j'ai démarré comme ça, en faisant quelques passes. Et ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie personnelle, professionnelle, surtout sur mes études, puisque comme je travaillais le soir, quand j'arrivais en cours, je m'endormais. C'était extrêmement difficile, je me sentais beaucoup dévalorisée. À l'époque, je ne prenais pas conscience encore que la prostitution me souillait au niveau de l'estime de moi-même. Mais je prenais conscience que je ne pouvais plus suivre mes cours et que du coup, je me sentais très fatiguée, très mal. Je m'isolais beaucoup, puisque comme j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à suivre les cours au niveau de ma scolarité, des élèves, j'étais moins réactif. Et du coup, c'était très difficile. Après, par la suite, en contactant les associations, en me renseignant, j'ai appris qu'il y avait plein d'autres solutions et j'espère que on pourra beaucoup plus en parler pour pas que d'autres personnes puissent vivre ce que j'ai vécu, parce que je pense que j'aurais pu éviter de vivre tout ce que j'ai vécu.
Oui, on va parler des conséquences un peu plus indirect, mais en fait, ce que vous dites, c'est que dès le début, quand vous avez commencé à vous prostituer, quand vous aviez 15 ans, ça a eu un impact au quotidien tout de suite. Ça vous a fait décrocher de votre scolarité. Et les raisons, donc, si j'ai bien compris, qui vous ont amené à vous prostituer, c'était un besoin matériel, d'argent, et une rencontre via les réseaux sociaux qui vous ont amené à...
C'était plus le manque d'écoute de ma famille et le manque d'acceptation qui m'a mené à fuir, en fait. Je pense que si ma famille m'aurait plus écoutée et acceptée, mais je ne peux pas leur en vouloir, parce que je vivais dans un petit village où que ma différence, pour eux, était incompréhensible. Mais c'est vrai que si j'aurais plus d'écoute, je pense que je n'aurais pas été obligée d'en arriver là. Si j'aurais su qu'il y avait des aides, notamment des accompagnateurs sociaux, pour s'émanciper, je pense que ça m'aurait beaucoup aidée.
Oui, c'est vrai, vous l'avez dit aussi, l'absence d'information faisait que vous avez été vers ce qu'il vous semblait possible, sans savoir ce qui était possible et que vous ne saviez pas. Et vous, Christine, est-ce que vous voulez partager votre expérience, les raisons pour lesquelles vous vous êtes retrouvée, alors que vous étiez mineure, dans un bar à hôtesse ?
Mais disons que j'ai été un peu livrée à moi-même, c'est-à-dire que j'étais à la DAS à l'époque, et puis on a voulu me faire rencontrer mon père. On a bien vu qu'il était incapable de me prendre en charge, puisqu'il ne pouvait pas se prendre en charge lui-même. Donc, il a fallu que j'essaie de gagner ma vie, moi aussi. Ça a commencé par le bar, puis ensuite, tout doucement, comme ça. Ça a été les cabarets, etc. Et puis, c'est vrai que quand j'ai découvert la facilité, entre guillemets, parce que ce n'est jamais facile, de pouvoir être dépendant, être indépendant matériellement, ne plus dépendre d'un père qui ne pouvait pas vraiment me nourrir, qui pouvait pas me Eh ben, je me suis laissée un peu enliser là-dedans, quoi.
Vous êtes
comme c'était
vous-même
quelque
entraîné.
Chose un peu naturel, entre guillemets, alors que ce n'était pas, bien sûr. Et j'ai pas trouvé de gens qui réellement m'ont tendu la main. Moi, une fois que j'ai été mise sous la tutelle, entre guillemets, de mon père, qui justement ne pouvait pas me... on m'a jamais vraiment parlé de possibilité de continuer mes études, alors que j'avais quand même un BEPC, etc. Donc j'avais un niveau même bac. Et bon, ben, j'avais que cette solution entre... alors qui en est une fausse, à la limite, parce que l'argent, ça permet d'éviter de voir plus loin, quoi, c'est tout. Mais c'est ça, c'est... J'ai pas cherché à comprendre, je me suis laissée enliser et vivre là-dedans comme si c'était naturel, voilà. Alors que je pense que... enfin, je n'avais pas conscience à l'époque que c'est pas un état naturel, quoi. C'est pas un état des choses tout à fait... voilà. Et après, bah, petit à petit, j'ai marqué des breaks, mais c'est vrai que j'ai poursuivi la prostitution parce que c'est ce qui me semblait le plus aisé pour moi matériellement. Cet argent que je gagnais énormément, d'ailleurs on en gagne énormément, c'est un miroir aux alouettes, quelque part. C'est un leurre. Mais il nous permet de mieux se cacher la réalité des choses.
Charlène, je crois que tu voulais dire quelque chose.
Oui, en fait, ça, dans le récit que j'entends aujourd'hui, mais que je connais, que j'aimerais relever que la prostitution, ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus. En fait, c'est tout un processus prostitutionnel. Il y a plusieurs facteurs fragilisants en général chez les personnes qui vont finalement glisser dans la prostitution. Toutes les personnes en précarité ne vont pas forcément trouver une solution dans la prostitution. On peut repérer que c'est tout un processus, en fait, avec un contexte intrafamilial, un contexte personnel et un contexte social. Les mineurs, aujourd'hui, on peut voir déjà sur le contexte social les jeunes sont confrontés très très rapidement à une société hypersexuelle, enfin l'hypersexualisation de la société, avec vraiment l'image du corps de la femme objet, que ça soit dans toutes les téléréalités en général ou même les exemples tels Zaya qui peuvent mettre en avant voilà le phénomène Zaya par exemple qui est assez aberrant et qui pourrait faire croire que sous des termes un peu plus doux d'escorte il y a une vie est plus douce mais qui cache la prostitution et la violence de la prostitution
et puis donc, une possibilité aussi d'ascension sociale ouais. Qui est affichée
Oui, à travers l'exemple de Zaya, mais c'est tellement rare et en fait, donc on voit bien que c'est un processus prostitutionnel où il y a un ensemble de facteurs, en général avec un contexte familial, on l'a entendu d'une part comme de l'autre, qui vont être peut-être pas assez soutenants. En tout cas, il va y avoir un contexte familial où il peut être repéré certaines carences affectives et puis. Aussi souvent quand même, donc je parlais du contexte social avec aussi l'accès à la sexualité pour les très jeunes aujourd'hui, l'apprentissage de la sexualité à travers la pornographie très accessible sur Internet qui ne fait que générer un petit peu cette place de la femme objet et voilà, ça c'est un peu le contexte social aujourd'hui, hein, mais dans les contextes fragilisants, souvent dans les mineurs en tout cas qui sont accompagnés en situation de prostitution, on repère souvent quand même des agressions physiques ou sexuelles où l'enfant a été victime de violences ou témoin de violences et du coup il a intégré la violence comme quelque chose d'assez normal en fait et il va la tolérer d'autant plus dans l'entrée dans la prostitution.
Alors moi je pense que Charlène, vous avez raison, effectivement moi j'étais amenée à la prostitution via les réseaux, mais c'est vrai que étant enfant j'ai subi, j'étais dans un réseau de pédophilie de 3 à 11 ans, donc mon corps n'était, j'avais perdu le ma dignité, vraiment. C'était pour moi quelque chose de normal, un peu, dans le sens où que j'ai toujours connu... dès l'enfance, en fait, mon corps m'a toujours permis de... de m'en sortir quelque part, puisque... ayant des parents pas très présents, les personnes qui me gardaient me paraissaient protectrices. J'avais toujours des petites récompenses, des jouets, des choses à la fin. Et c'est vrai que ces choses-là font que on peut être amené plus tard dans la prostitution. Puisque on a plus cette protection, cette barrière et cette estime de soi, puisque on a été souillé dès l'enfance.
Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'on voit dans les parcours qu'on rencontre. En fait, c'est cet ensemble de facteurs fragilisants qui vont être un peu comme aussi des alertes sur une situation. Christine, vous parliez de la DAS qui est actuellement aujourd'hui qui s'appelle aujourd'hui les services d'aide sociale à l'enfance, où les enfants sont effectivement placés. En général, quand il y a un problème, ils sont protégés. Et souvent, ces lieux de placement sont aussi compliqués à vivre. C'est un moment de rupture avec la famille, c'est des moments d'isolement. Et voilà, c'est un ensemble de faits qui vont, en tout cas, favoriser l'entrée dans la prostitution pour ces mineurs. Et notamment, Julie, vous parliez de votre rapport à votre propre corps, finalement, parce que très tôt, il avait été instrumentalisé. Oui. Et que, finalement, pour vous, ça a été presque... l'image que vous aviez de votre corps était assez, assez négative. Et puis ça a aidé aussi à rentrer. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs...
Oui, il y a aussi, Charlène, quelque chose que vous avez dit. C'est vrai que j'ai eu un côté rassurant dans l'adolescence, c'est-à-dire que comme j'avais un manque d'écoute de mes parents, de compréhension, c'est vrai que d'avoir rencontré des hommes mûrs, parfois il y en avait beaucoup de malveillants, mais il y en avait certains qui étaient bienveillants. Et certains que j'ai pu rencontrer m'ont quand même soutenu. Je pense que c'est... je me voile la face. Mais pour moi, j'avais trouvé quand même une sorte de réconfort qui n'était peut-être pas la bonne.
Ce que nous, on va appeler les bénéfices secondaires.
Tout à fait. C'est-à-dire que souvent, notamment les mineurs, vont mettre en avant... le besoin d'argent ou d'indépendance financière matérielle, mais on se rend compte qu'il n'y a pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a dans la rencontre, ce que vous expliquez là, Julie, dans la rencontre de ces hommes que vous appelez rassurants, c'était sans doute une carence affective aussi, un manque d'écoute, et que vous allez trouver à travers cette personne qui va vous faire croire être rassurant, sécurisant, et se servir aussi de cette vulnérabilité dans votre minorité. On le voit à travers ce terme aussi qui est utilisé chez ces jeunes. Tout à fait, le lover boy. Le lover boy, c'est une nouvelle forme de proxénétisme, en fait, chez les jeunes. C'est-à-dire un certain type de proxénète qui se distingue par sa méthode de recrutement, par l'ambiguïté de la relation qu'il entretient avec ses victimes. En fait, il va même se servir de l'attention, de l'affection. On a en idée un peu en préjugé, en stéréotype du proxénète, la menace, la violence, l'extorsion. Alors que le lover boy va faire tomber amoureux. En fait, la jeune fille va la couvrir au début de cadeaux, de compliments, va avoir cette forme de gentillesse, pour derrière mieux se servir de sa vulnérabilité, de son corps d'abord à travers l'acte sexuel, mais aussi en se servant de son amour et de son affection pour lui faire des pratiques sexuelles avec d'autres. C'est-à-dire, si tu m'aimes vraiment et que tu le fais avec moi, pourquoi tu ne le ferais pas avec d'autres, et en tirer après un avantage financier.
Exactement, c'est ce que j'ai vécu. Oui.
C'est comme ça que s'installe la relation d'emprise progressivement. Et peut-être que là, donc, on peut peut-être parler des conséquences de la prostitution. Déjà, on peut peut-être rappeler, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, que la prostitution des mineurs est interdite par la loi.
Tout à fait.
Contrairement à la prostitution des adultes, où il n'y a pas d'interdiction spécifique à se prostituer.
Oui, oui. La prostitution adulte n'est pas interdite. Elle est tolérée avec l'abolitionnisme. Mais pour les mineurs, elle est interdite. Et puis, les personnes qui les clients, hein, qui seraient, notamment les clients depuis la loi de 2016, que ce soit adultes, sont pénalisés, hein, pour les adultes. Mais le délit est plus important, effectivement, quand il s'agit de mineurs de plus ou de moins de 15 ans.
Ça, c'est pour les conséquences pénales à l'égard des clients et les conséquences pour les personnes qui, elles, se prostituent. Vous avez commencé à en parler un petit peu, Julie, hein, vous parliez du rapport à votre propre corps.
Oui.
Vous avez parlé aussi tout à l'heure de confiance altérée de vous-même.
Oui, j'avais un profond manque de confiance en moi, puisque depuis l'âge de 3 ans, j'étais suivie en psychiatrie, puisque je ne me sentais pas dans... J'arrivais pas à m'adapter au corps de naissance. Et c'est vrai que le côté où on nous offre des cadeaux, où on nous complimente, où on nous... Comment je pourrais dire, on nous fait un peu rêver, on nous donne une fausse confiance en nous qui fait que quand on est jeune, c'est vrai qu'on peut s'y perdre.
Vous parliez d'isolement aussi, hein, tout à l'heure. Hein.
Oui, j'ai eu beaucoup d'isolement parce que déjà la fatigue, les études plus la prostitution, c'est extrêmement fatigant. Le mal-être, déjà par rapport à mon état psychologique et physique, par rapport à ma transsexualité. Et puis aussi à la prostitution, parce que c'est vrai que c'est très troublant. On perd une certaine notion de réalité. On perd dans le sens déjà financier, puisqu'on se retrouve en galère et d'un seul coup, on se retrouve avec une vie un peu, comment je pourrais dire, pas luxueuse. Enfin,
un apport conséquent d'argent d'un
seul
coup. Quoi.
Oui, là, quand on est jeune, on a envie de plein de belles choses. Surtout quand on est en cours, qu'on voit nos camarades qui ont le dernier téléphone et que nous, on a le dernier, qu'on a les vêtements troués, de se retrouver ensuite, enfin discriminé, de se retrouver ensuite accepté, puisque on se retrouve à avoir ce qu'on a besoin. Oui.
Mmh. Et puis, peut-être aussi un rapport avec les autres personnes qui se retrouvent un petit peu...
Un peu faussé.
Oui, pardon. C'est vrai que moi, la prostitution, je la cachais parce que quand j'en parlais, j'étais très vite dénigrée, insultée. Les gens ne comprenaient pas. Pour eux, c'était une volonté de ma part et non une nécessité. Donc, c'est vrai que je me sentais pas comprise. Je me sentais vraiment salie par la société. Donc, je le cachais.
Oui, la mésestime de soi, le dégoût, la honte, la culpabilité... ça fait partie des conséquences psychiques importantes qu'on retrouve souvent dans les conséquences physiques aussi. Oula. Christine, il y a un téléphone. Bon, excusez-nous. On parlait des conséquences psychiques avec la dissociation et la décorporalisation aussi. Enfin, la violence qui peut être subie durant la prostitution va aussi entraîner les personnes qui se prostituent pendant un moment à beaucoup moins écouter leur corps, en fait, parce que il va y avoir comme une sorte de dissociation aussi entre le corps et l'esprit pour moins subir la violence de la passe. Cette dissonance-là peut créer aussi le fait qu'on écoute moins son corps, c'est-à-dire que les personnes, par exemple, souvent que j'accompagne, attendent vraiment au niveau de la santé d'être vraiment très dégradées parce qu'elles ne vont pas écouter leur corps, les symptômes de leur corps, les douleurs. Enfin, ça fait partie des conséquences.
Christine, vous vouliez réagir, il semblerait.
Oui, moi je voulais dire que moi ça a été aussi... je pense que la prostitution s'est adaptée à moi. Parce que je recherchais l'affection de mon père, de ce père que je rencontrais. Et là où je dis que les relations sont poussées, que les rapports sont poussés avec l'entourage ou avec les gens, c'est que je pensais, avec cet argent que je gagnais, pouvoir acheter l'amour d'un père qui était incapable de m'en donner, puisqu'il ne s'aimait pas lui-même. Donc c'était déjà très dur, ça. Mais j'ai mis des années à en prendre conscience. Et puis, c'est, disons que d'être dans la prostitution, c'était beaucoup plus rassurant pour moi du fait que les premiers boulots que j'ai tenté d'avoir, qu'on a essayé de m'avoir, c'était des stages, des choses comme ça. Mon premier boulot, serveuse dans un restaurant, je me fais bouffer ma paye par mon père. Ma première paye, ça a été mémorable, ça resterait gravé dans ma tête à tout jamais. Ensuite, ça a été des patrons de bar qui m'exploitaient, plus ou moins. Ils me faisaient travailler 17 heures sur 24. Ça, c'est notoire et j'étais pourtant mineure. Et là où c'est poussé, c'est que après, quand j'ai pu carrément, c'est des femmes qui autour de moi, des anciennes, des prostituées, me disaient t'es jolie, t'es mignonne, t'as qu'à carrément te mettre sur un trottoir, t'as qu'à venir avec nous, t'as qu'à et puis t'en fais pas, on est là, etc. Bon, ça a été très dur. Je me rappelle toujours que ma première vraie passe ça a été sur la route. Je pleurais. Je pleurais parce que avant, pourtant, j'avais eu des relations avec des clients à la sortie du cabaret, à la sortie de la nuit. Mais ça se passait dans un contexte un peu différent, dans un contexte de nuit, un peu. Mais c'était pas carrément la réalité crue, dure de la prostitution. Et là, ça a été ma première passe. Je me rappellerai tout le temps. Je pleurais et je suis tombée sur un type assez compréhensif entre guillemets, parce que. Bon, et qui m'a dit t'en fais pas, ça va se passer comme ça et tout. Puis des filles m'ont un peu les anciennes, ce qu'on appelait les anciennes, m'ont dit tu en prendras l'habitude et tout. Et c'est vrai qu'après, bon, j'en ai pris l'habitude, même si c'était une mauvaise habitude. Et je dirais que ben moi, ce qui a fait que j'ai vécu longtemps de ça sans me poser de questions. Voilà, je le vivais comme vraiment quelque chose, je le répète, de naturel. C'était quelque chose de vraiment normal, naturel. Voilà, ça m'aidait à ne pas, enfin, essayer de penser des plaies que je refusais d'aller voir, d'aller un peu gratter, tout. C'était, voilà, c'était la facilité. Chose qui est fausse, parce que ce n'est pas facile, c'est peut-être de l'argent vite gagné, mais très mal gagné. Mmh. Très mal, parce que on est souillé, on est des... Puis on reste pas sans cicatrice, quoi. On reste pas même... je parle pas de moi maintenant, mais même déjà à l'époque, je commence à me négliger totalement, à négliger ma santé. C'était pas me négliger, parce que je sauvais les apparences en m'habillant toujours très très bien, très coquet, très... Je sauvais les apparences, je faisais croire que tout allait bien. Tout, ah oui. J'étais dans ma petite tour d'ivoire, entre guillemets. Enfin, je suis toujours dit ça. Et puis, ce qui m'aidait à... C'était ce fameux rempart, ce fameux... Là, quel argent, c'est tout. Mais c'est quelque chose de destructeur, c'est quelque chose de... Et quand on est un jour face à soi-même, c'est horrible. On ne peut pas rester intact. C'est impossible de rester intact, quel que soit l'âge.
Et alors, conseil ou quel message vous aimeriez transmettre à une jeune fille ou à un jeune homme qui aujourd'hui se prostitue ou qui se pose la question, tiens, est-ce que ça serait pas une bonne idée pour moi? Est-ce que, avec, fort de votre expérience, vous auriez envie de lui dire quelque chose et quoi?
Déjà, je voudrais revenir un petit peu à ce qu'on parlait avant. Moi, je voulais dire quelque chose de très important, c'est-à-dire que la prostitution m'a détaché mon corps de mon âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin même... À l'adolescence, mes premières passes, je vomissais, j'étais vraiment très très mal, j'avais des crampes au ventre, j'avais pas de possibilité d'avoir d'orgasme, j'étais vraiment très très mal. Et avec le temps, c'était comme aller chercher une baguette de pain à la boulangerie. Je veux dire, mon corps, c'est devenu une machine. C'est comme si on me demandait des actes sexuels. C'est comme si que j'appuie sur une télécommande. Et j'arrivais vraiment plus à avoir du plaisir intime dans ma vie personnelle, puisque je instinctivement j'obéissais et j'essayais psychologiquement de comprendre et de capter ce que la personne voulait pour fidéliser aussi. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'impact, je ne sais pas si peut-être on compte en parler après, l'impact.
Non, bien sûr.
Mais j'ai beaucoup de dégâts. J'ai 30 ans et c'est vrai que je suis en parcours, j'essaie de sortir de la prostitution. Et dans ma vie de femme actuelle, je me rends compte que je n'ai plus le même rapport avec dans ma vie personnelle, avec les hommes. Je suis vraiment, je me sens de la viande, un objet sexuel. Pour les clients, je suis à 30 ans déjà périmée et c'est vraiment atroce parce que je ne m'étais pas préparée jeune à ça. Je pensais que ça allait toujours, l'argent allait toujours rentrer. Et sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, il va falloir que je me batte pour me réadapter à une vie traditionnelle. Et c'est vrai que la prostitution, c'est... Moi, je ne dis pas que c'est de l'argent facile, ce n'est pas vrai du tout. Puisque même pendant les actes, c'est toujours... Il y a des choses qui nous dégoûtent quand même. Enfin, il y a les odeurs des personnes. Les gens, on fait semblant d'être un personnage, donc les gens abusent de nous et nous demandent des efforts qui ne sont pas forcément très faciles à accomplir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des angoisses. Mais par contre, on travaille comme on veut, quand on veut. Parfois, on choisit ses clients. Et c'est vrai que dans ma vie d'adulte aujourd'hui, j'aimerais me retrouver. J'aimerais me retrouver, mais j'ai peur de rentrer dans la vraie vie active professionnelle, puisque j'ai quand même essayé de passer mon CAP coiffure esthétique que j'ai eu, mais me lever le matin, d'avoir un rythme de vie normal, pour moi, ça devient des angoisses, une peur. Et je suis terrifiée. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai même perdu mon estime, dans le sens où que quand je rencontre des gens, pour moi, ça me paraît naturel de leur expliquer ma vie. Et j'ai beaucoup de gens qui me dénigrent ou qui me refoulent par rapport à ça. Ou des gens qui abusent de ma situation, comme quand je sors, mettons avec des amis, avec des copines, quand on va en discothèque, ou qu'il faut payer le taxi, ou des choses comme ça. « Oh, mais toi, c'est facile, tu as de l'argent, comme ça. » Et tout ça, c'est un impact, parce qu'on perd... je veux dire, quand on doit payer pour les autres, on se dit « Mais est-ce qu'ils nous aiment vraiment ou pas ?»
Oui, vous vous assignez vous-même à cette place exclusive de prostituée et les personnes qui sont autour de vous vous y ramènent tout le temps aussi.
C'est souvent les gens les plus discriminants, surtout, parce que les plus compatissants sont toujours à nous respecter, mais les gens les plus méprisants sont toujours ceux-là. Ils sont toujours là à dire « Ah, mais toi, tu peux m'aider, j'ai un problème. » Ou alors, nous laissent toujours payer, parce qu'ils pensent que pour nous, c'est facile, en fait. Moi, parfois, je leur dis « Mais t'as qu'à faire comme moi. » Mais ces gens-là me disent « Ah non, moi, jamais de la vie. » Et c'est ça qui est paradoxal.
Charlène ?
Oui. On entend là, à travers ces témoignages assez touchants, justement, toutes les conséquences à plusieurs niveaux de la prostitution sur la personne, c'est-à-dire les conséquences sociales. C'est-à-dire qu'on a, comme vous l'exprimiez, Julie, dans vos rapports amoureux, c'est compliqué de ne pas reproduire cette femme objet, d'être juste dans le désir de l'autre, comme avec les clients, dans le rapport à la sexualité, le rapport à l'argent, le rapport à son propre corps. On voit bien comme toutes les conséquences de la prostitution sont prégnantes et lourdes. Et plus la prostitution dure, effectivement, plus il est compliqué de se défaire de tout ce qui a été marquant pendant ces années-là.
une petite différence par rapport à l'expérience qu'a pu avoir Christine il y a des années en rue sur justement cette prostitution qui commençait en rue. La problématique autour de la prostitution des mineurs aujourd'hui, c'est que c'est une prostitution invisible. C'est une prostitution 2.0. C'est essentiellement à travers comme l'expérience de Julie, d'un premier contact sur des réseaux pour rencontrer, peut-être rencontre amoureuse, et qui vont, les sites comme Instagram, Snapchat ou d'autres, hein, qui sont faites d'abord juste pour chatter, rencontrer, peuvent être utilisés à d'autres fins, il y a des risques, et puis des gros sites qui vendent à peu près tout et n'importe quoi, hein, et qui ont cette rubrique rencontre, il y a énormément de jeunes aujourd'hui, de mineurs, qui font des faux profils et qui arrivent à se prostituer via des annonces faites sur internet, et c'est difficile de pouvoir atteindre ces jeunes-là parce qu'ils sont derrière leur écran, isolés derrière des fausses identités. Isolés parce que les réseaux de prostitution aujourd'hui n'ont plus la même ampleur que ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait imaginer. La prostitution et le proxénétisme aujourd'hui est parfois de toute petite taille. C'est parfois des mineurs qui sont même des petits copains proxénètes qui sont à peine majeurs qui vont prostituer leur copine et puis une autre copine, et c'est des petits réseaux comme ça qui peuvent se développer parce que
ou des parents aussi.
Oui, il y a effectivement dans la prostitution mineure, il y a tout type d'emprise et de proxénètes. La famille, malheureusement, parfois peut être à la source, hein, de la prostitution, mais la plupart du temps, quand même, c'est ce qui apparaît et ce qui est c'est quand même cette prostitution via les réseaux. C'est-à-dire que toutes les offres passent quand même par des petites annonces.
Les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, bien sûr, les réseaux sociaux et les petites annonces. C'est on développe nous aujourd'hui justement ces rencontres, ces maraudes aussi internet, c'est-à-dire qu'on va aller regarder un petit peu ces annonces pour essayer, de la même manière qu'on va en rue rencontrer des adultes en situation de prostitution pour leur dire qu'est-ce qu'on fait, qui on est, bien sûr aussi la réduction des risques à travers la distribution de matériel, hein, de préservatifs, lubrifiants, mais aussi de conseils pour les orientations médicales, à travers la maraude internet, on va contacter ces personnes parce qu'elles laissent un numéro de téléphone ou une adresse mail pour que les clients les contactent. Et du coup, à travers ces numéros, on va contacter les personnes pour leur dire qu'on existe et qu'elles peuvent nous appeler. Mais on n'a aucune possibilité d'estimer la minorité derrière une annonce ou quelques photos qui sont vagues et floues. Néanmoins, et si cela arrive, comme je voudrais quand même dire qu'il existe un signalement à faire quand on a conscience qu'on a affaire à la prostitution mineure via une annonce sur internet. Il existe une plateforme de signalement en fait public, hein, qui s'appelle Pharos, et qui tout à chacun, tout citoyen qui sait, qui a conscience ou qui trouve une annonce d'une personne mineure doit faire ce signalement en premier lieu via cette plateforme d'information publique, hein, qui est Pharos.
Pharos,
oui. Et puis aussi, il y a d'autres moyens aussi d'appeler des partenaires, c'est-à-dire quand on a notion, quand on sait qu'un mineur est en situation de prostitution, il y a des procédures, des numéros à appeler. La première procédure, quand même, c'est la possibilité d'appeler la brigade des mineurs.
Pardon.
La possibilité, bien sûr, hein, d'aller parler à la police, mais aussi d'écrire au procureur de la République, qui pourra se saisir des informations. Les informations aussi, on vous donnera, je pense, une liste un peu plus exhaustive.
On donnera à Nadia la liste des différents contacts possibles.
Bien sûr, hein, je pourrais la mettre sur le site de l'émission. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite puisque je ne suis pas intervenue, donc je suis très touchée et vraiment, c'est formidable vos témoignages et vos interventions. Je vous remercie. L'émission n'est pas terminée, il reste encore un petit quart d'heure. Mais je ne vous avais pas proposé, on ne s'en était pas parlé au début, si vous aviez besoin d'une pause musicale. Donc je crois que ça peut-être comme vous voulez.
Bon, là, j'ai l'impression qu'on est bien dans le débat,
voilà,
on a encore
voilà,
pas mal
c'est
d'informations.
Oui, voilà, je me suis dit non, ça va aller couper, donc très bien.
Si besoin, on fait des grands signes.
Voilà, je vous laisse continuer.
Moi, je voulais enchaîner sur quelque chose qui me semble important, en parlant de la prostitution des mineurs. C'est que moi, actuellement, je me prostitue toujours et je vois de plus en plus de clients qui me demandent si je connais des petites jeunes. Et je trouve que, justement, ça fait partie, justement, aussi de cette recrudescence de la prostitution des mineurs, à mon avis. Et de plus en plus de vieux pervers, je ne peux pas les appeler autrement, de toute façon, qui demandent si des filles, elles ont... S'il y a des filles, par exemple, là où je me tiens, qui sont mineures, et s'il y a des possibilités d'avoir des filles mineures. On m'a même fait une proposition, moi, de me donner...
Je pense que là, il est difficile, Lionel. Je vais essayer de... Il est difficile de dire, est-ce que les temps ont changé, et que la demande, si on peut parler d'une demande, des clients à avoir... accès à un public plus jeune, enfin à des filles plus jeunes. Vous avez, vous, témoigné de votre possibilité d'avoir accédé à la prostitution en tant que mineur. Donc déjà, il y avait de la consommation.
Oui.
En ce sens-là, il y a plusieurs décennies.
Et
cette demande, cette orientation existe encore.
Oui.
Après, elle se déplace sous la forme, comme le disait Charlène, par la manière dont ils vont rentrer en contact avec le public mineur. Mais je crois que, malheureusement, est-ce que ça c'est propre à la relation humaine et au désir, enfin, justement, à la sexualité, enfin, si on peut parler sexualité à ce niveau-là, est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Ou est-ce qu'on le remarque et on l'identifie aujourd'hui, peut-être plus facilement ou différemment ? Il est difficile de savoir si aujourd'hui il y a plus de prédateurs sexuels sur mineurs.
Oui, sûr.
Et de demande qu'avant. Ça, c'est difficile de venir répondre à ça.
C'est très, très
mais compliqué. C'est vrai que vu que c'est médiatisé, vu que ça se voit et que ça s'identifie, on a cette sensation-là. Donc, c'est clair qu'on, et ça devient de très alarmant. Et vous avez, en plus, vous le constatez, vous, en rue, aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que c'est...
C'est vrai que c'est difficilement quantifiable. Et puis, c'est vrai que nous, là, on n'a pas vraiment ces chiffres-là. On ne sait pas vraiment penser...
On ne sait pas si le nombre de mineurs en situation de prostitution est en augmentation, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les chiffres qui peuvent être donnés, je pense qu'une grande partie des mineurs en situation de prostitution ne sont pas connus ni comptabilisés. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le fait, est-ce qu'il y a ou pas une augmentation aussi du nombre de mineurs en situation de prostitution. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un phénomène qui est de plus en plus visible et dont la société prend conscience et alarmant, parce que finalement, plus on le regarde et plus on le voit. Médiatiquement, on en parle beaucoup, mais aussi ça fait référence à de nombreuses situations qui arrivent de plus en plus tôt. L'âge moyen d'entrée en prostitution chez les mineurs, c'est 13-14 ans. C'est très jeune, hein. C'est tout juste sorti de l'enfance, à peine pubère. Et ces jeunes filles et garçons ont vraiment rentrent dans la sexualité presque directement à travers la prostitution. Et ça crée une grosse confusion entre sexualité et prostitution. C'est-à-dire un petit peu comme vous le disiez, Julie, dans vos rapports aux hommes de manière générale, parce que quand on se vend un moment, c'est compliqué après de ne plus être femme objet, en fait, juste désir de l'autre et pas désirante. Parce que quand on est dans ce rapport dominant-dominé, parce que pour moi, la prostitution, c'est de la domination.
Bien sûr, tout à fait.
Et c'est compliqué finalement de retrouver quand on a été en tout cas ces jeunes que je rencontre n'ont pas de notion, enfin c'est compliqué pour elles de parler réellement de plaisir, de consentement. C'est des mots qui leur est un peu lointain, parce qu'elles sont juste dans la vente d'un acte sexuel, donc de rapport argent-sexualité. Et ça crée vraiment des confusions dans le rapport à autrui, dans le rapport au sentiment, dans le rapport au corps et dans le rapport à la sexualité aussi.
D'où l'intérêt, hein, c'est ce que vous disiez toutes les deux, d'avoir accès à une information qui nous permet de ne pas tomber dans la prostitution, ou en tout cas de ne pas tomber trop profondément dans la prostitution quand on commence à se prostituer quand on est mineur. Et puis aussi... on s'en rend compte, hein, une prise en compte des pouvoirs publics qui est quand même relativement en deçà du phénomène, puisque on le voit sur Marseille, hein, la Mika Duni a un agrément pour 40 accompagnements.
Oh merde.
C'est pas grave. Oui. De personnes mineures en situation de prostitution. Et à ma connaissance, on est la seule structure où il y a en France
où
on accompagne des mineurs en situation de prostitution.
C'est en train de se développer et il y a des appels à projets, enfin un peu partout, parce que justement face au constat du nombre de mineurs en situation de prostitution, eh ben les instances publiques commencent à prendre conscience de la nécessité de créer des réponses et des lieux adaptés. Et c'est vrai que Marseille pour ça accompagne des mineurs maintenant depuis 4 ans et on est une des premières villes de France justement à travailler sur un accompagnement individuel des mineurs en situation de prostitution, pour leur faire rendre compte au plus vite de tout ce qui est cause, conséquence, et leur offrir cet espace de parole et de possibilité que vous n'avez peut-être pas eu, comme vous dites, quand vous étiez plus jeune, Julie.
Oui, malheureusement, justement, je pense que y aurait eu cet accueil plus tôt. Ça m'aurait permis de m'en sortir beaucoup plus tôt. Le regret que j'ai dans mon parcours de vie, c'est vraiment de ne pas avoir été accompagnée. J'étais confrontée vraiment à beaucoup de difficultés. J'ai demandé de l'aide, j'étais plusieurs fois à la police. Pour moi, c'est important. Enfin, je voudrais revenir après surtout là-dessus pour conseiller les personnes, éviter des jeunes filles de faire de bêtises et de croire que la prostitution c'est un monde merveilleux. Mais c'est vrai que les encadrements pour les mineurs, je pense que plus tôt on est pris en charge, plus tôt on peut se réinsérer dans la société, et moins ça a d'impact sur notre vie après intime. Parce que moi, je le vois à 30 ans. Je ne sais pas quand je vais pouvoir me reconstruire maintenant, alors qu'à 25 ans, je pense que j'aurais été tout à fait apte à reprendre une vie normale, ou même beaucoup plus tôt. Et je voudrais surtout dire aux personnes qui sont en difficulté, parce qu'il y a des personnes qui tombent dans la prostitution par nécessité, et d'autres passent pour, comme le phénomène Zaya, des jeunes filles qui veulent s'approprier une identité et s'offrir comme le disait Marie-Christine, des fois par des souffrances, on essaie de se voiler la face par des apparences, alors qu'au final, ça nous détruit encore plus. Je voudrais que... Enfin, aujourd'hui, je suis ici parce que j'aimerais vraiment que d'autres mineurs tombent dans la prostitution, n'hésitent pas à démarcher les associations, surtout. Moi, je ne savais même pas qui ça existait, malheureusement, et même la police, il ne faut pas baisser les bras. Moi, j'ai eu beaucoup de... J'étais dans une petite ville, la police n'était pas du tout formée pour ça, ils m'ont refoulée, et du coup, je me suis braquée. Et non, il faut toujours persévérer, être accompagné. Il faut jamais. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui peut nous détruire. Il y a quand même des personnes qui peuvent se suicider ou qui finissent dans la toxicomanie énormément. Donc c'est vrai que je pense que il faut pas rester seul. Moi, j'ai vraiment souffert. J'ai eu la chance d'avoir une éducation, des parents qui n'avaient pas pu être présents puisqu'ils étaient plus dans des objectifs de construire leur vie. Mais il faut pas rester isolé. Il faut vraiment discuter. Parce qu'après, il y a tout un encadrement qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des émancipations, des accompagnateurs sociaux, des psychologues. Il peut aussi y avoir des aides pour nous faire reprendre nos études.
Et donc justement, quel message, quel conseil on pourrait donner aux adultes qui se trouvent tout autour de ces jeunes, d'un jeune qui serait en situation de prostitution ou pour lesquels on aurait des inquiétudes par rapport à une activité prostitutionnelle? Comment réagir? Est-ce qu'il faut...
Ne pas hésiter à tendre la main, je pense déjà, à à donner des conseils et puis à accompagner l'enfant, enfin le mineur, pour moi c'est un enfant encore, de toute façon, hein, il n'y a pas autre chose. Et puis ne pas hésiter à l'accompagner, se dire que, ben, de toute façon, en plus, bien expliquer à l'enfant que la prostitution, ce n'est pas une solution. Ça ne laisse jamais intact. Ça marque et ça et on a un rapport aux hommes après totalement. On est parano avec les hommes. Oui, c'est
vrai. Donc la prévenir des conséquences et des dangers.
Je voudrais parler avant Charles parce que j'ai beaucoup de choses à dire.
Allez-y.
Alors pour moi c'est pas un conseil, c'est un devoir civil. Je pense que c'est un devoir d'accompagner des enfants dans des structures parce que je pense que ça peut bousiller une vie, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un devoir, il ne faut pas hésiter. Et puis quelque part...
Il faut y aller.
Voilà.
Mais comment ?
Il faut y aller, il faut voir. Mais il y a la police, les associations. Il faut qu'on en parle plus parce que les gens ne sont pas au courant encore. Ça commence à se développer. Mais oui, il faut vraiment emmener ses enfants pour être encadrés.
Vous en appelez au devoir civique.
Voilà.
Moi, dans le cadre Charmaine. Des accompagnements que je fais sur ces, et aussi auprès des adultes qui ne savent pas toujours comment réagir justement face à des mineurs en situation de prostitution, moi je leur dis que d'abord, ben, comme tout à la communication, l'écoute est importante, mais deux choses. Quand un mineur vous parle de cette prostitution, ni dramatiser, oh mais mon Dieu, d'avoir une réaction comme ça excessive, ni banaliser, c'est-à-dire comme si la prostitution était juste une expérimentation de plus de l'adolescence. Non plus. Donc éviter quand même être un peu entre ces deux. C'est pas dramatiser, mais pas banaliser non plus. C'est-à-dire prendre en compte la parole du jeune et discuter aussi sans jugement, en essayant de comprendre et de lui indiquer aussi les causes, les conséquences qu'on aimerait pouvoir surtout lui éviter.
Ce que vous disiez, Christine. Hein. Et puis peut-être ne pas hésiter à demander de l'aide. En tant qu'adulte ?
Bien sûr, il y a effectivement d'abord des associations spécialisées comme la nôtre aujourd'hui qui accompagnent tout professionnel, toute personne qui aurait des questions autour de la prostitution, qu'elle soit adulte ou mineure, comment aider une personne à pouvoir sortir de la prostitution si elle le souhaite aussi et comment l'aider, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de parents qui ne savent pas du tout, qui sont démunis face à la prostitution de leurs jeunes.
Qui ont peur aussi. Hein.
Qui ont peur. Et donc, n'hésitez pas effectivement d'abord à aller chercher les conseils des professionnels. Effectivement, vous trouverez les coordonnées de l'Amicale du Nid, une équipe pour répondre à vos questions, vous aider aussi un petit peu dans comment prendre en compte la parole du jeune. Nous, sur l'accompagnement des mineurs en situation de prostitution, c'est l'aide sociale à l'enfance qui nous accorde un agrément d'intervention. Voilà, donc on intervient dans le cadre de la protection de l'enfance.
Auprès du jeune.
Auprès du jeune.
Ce qui ne nous empêche pas de nous donner des conseils et de répondre aux questions des personnes adultes qui peuvent être...
Tout à fait, oui. On a aussi cette mission-là de conseiller les adultes, les personnes autour du jeune et toute personne qui se poserait des questions.
Je peux me permettre d'ajouter quelque chose.
Il nous reste deux minutes. Voilà, oui. Si vous voulez clôturer.
Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, j'ai plus de 30 ans de prostitution sur le dos. Je connais très peu deux filles qui se sont prostituées à leur compte, qui en sont sorties avec énormément d'argent. Ça, je peux le dire. Donc, ne vous faites pas croire qu'on va devenir riche, on sort ici. Au contraire, je dirais même que l'argent, c'est ce qu'on me disait lorsque j'ai commencé, on me disait, l'argent brûle les mains. Mais c'est vrai qu'il brûle les mains, parce qu'il est tellement vite gagné, non pas facilement gagné, mais vite gagné, que... on a envie de se faire
surtout la douleur.
Oh, ouais.
On a envie de s'évacuer la douleur.
Voilà. Et puis voilà. Mais surtout ne jamais se faire croire qu'on sort ici par la prostitution. On se paye des beaux rêves. Oui, je regrette pas des voyages et machin, des trucs comme ça et tout. Mais après, pof, on en sort très meurtri, très abîmé. C'est tout ce que j'ai comme conseil à donner d'éviter là.
Eh ben merci beaucoup pour ces témoignages.
Merci beaucoup.
Merci
vous.
Lionel, Charlène, Julie.
Je suis fière de vous, de l'Amicale du Nid, d'avoir pu vous rencontrer. Et vraiment très émue par ce qui a été dit. Et oui, je suis fière parce que ce que vous avez dit, ça va en contradiction avec ce qu'on entend tout le temps. Vous en avez parlé dans les médias, la campagne qu'il y a pour faire croire au mythe de la prostitution heureuse, de la prostituée heureuse.
Et ben, il suffit de laisser la parole aux personnes qui se prostituent.
Voilà, donc je voulais en parler, mais j'en ai pas parlé là, effectivement, absolument. Et tu as bien fait effectivement de me dire non, on n'en parle pas, on laisse parler les personnes, et je suis très fière de vous. Et juste pour dire que, par contre, donc il y a encore un troisième volet sur la traite des êtres humains, qui est l'extrême majorité des personnes en situation de prostitution. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit rarement. Donc je veux juste dire aux auditeurs qu'il y a des documents magnifiques aussi produits par le mouvement d'Uni, comme 30 mises au point sur ce que c'est que la prostitution. Voilà, je pense que là déjà, ils ont entendu beaucoup de choses. Et qu'il y aura sans doute, on en a parlé, Nicolas et Charlène aussi, je vous invite, à faire un quatrième volet après, où on n'aura plus les personnes en situation de prostitution, mais on aura, nous, les associations féministes ou les personnes qui travaillent pour changer ce monde, pour lutter contre ce système d'exploitation. Et où, entre nous, on pourra un peu faire un quatrième volet, en fait. Voilà, je voulais le dire aux auditeurs. Donc voilà, je vais lancer le générique et merci, hein, vraiment.
Merci Nadia.
Vous avez
merci.
Vraiment formidable, et je pense que j'aurai des retours des personnes qui ont écouté, qui me diront ça aussi, j'en suis persuadée. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.